Premier temps d'une nouvelle semaine de la Fabrique de l'Histoire que nous consacrerons cette semaine à l'histoire des protestantismes. Et comme chaque lundi, ce ne sera pas le seul sujet que nous aborderons. En effet, en première partie de cette fabrique aujourd'hui, eh bien, nous recevrons Éric Bussière. Il est professeur à l'Université Paris 4 Sorbonne et il est directeur du LABEX, laboratoire d'excellence sur écrire une histoire nouvelle de l'Europe. Il sera avec l'historienne Yannick Ripa, qui est professeur à l'Université de Paris 8 à Saint-Denis et qui s'occupe au sein de cette écrire une histoire nouvelle de l'Europe et de cette encyclopédie qui va avec, eh bien, d'un comité de pilotage sur le genre. On expliquera dans un instant ce dont il s'agit. En deuxième partie de cette émission, eh bien, nous recevrons avec Catherine de Copé Patrick Cabanel. Il est historien, directeur d'études à l'École pratique des hautes études et il vient de publier chez Fayard « De la paix aux résistances, les protestants en France entre 1930 et 1945 ». Mais tout de suite, pour commencer cette émission comme tous les lundis, un nouvel épisode de notre Fabrique de la guerre froide, épisode numéro 23. Aujourd'hui, le rapport Jdanov en septembre 1947. Anaïs Quin s'entretient avec l'historienne Emilia Robin.
We must remember that Australia, New Zealand and Canada
President Truman has just announced that Soviet Russia has the atomic bomb.
I believe in the Soviet system. And here I was working for the FBI, the enemy.
La fabrique de la guerre froide. Depuis mars 1947, les États-Unis ont adopté une doctrine de lutte contre l'influence soviétique selon le principe de l'endiguement ou du containment édicté par le président Truman. À la fin de l'année, l'Union soviétique se dote elle aussi de son propre manifeste secret de guerre froide à travers le rapport Jdanov.
Alors, le rapport Jdanov est prononcé par le représentant soviétique à une conférence des partis communistes qui a lieu en septembre 1947 en Pologne, à Sierzla Poreba.
Emilia Robin.
Donc, on réunit pendant 5 jours les représentants des partis communistes, pas tous, contrairement au Comintern qui dans l'entre-deux-guerres regroupait tous les partis communistes du monde entier. Là, on ne fait venir que les partis communistes d'Europe de l'Est, l'URSS, plus l'Italie et la France, donc le PCI, le PCF. Chacun fait un rapport sur l'état dans la situation dans son pays et sur différents aspects de l'état du mouvement communiste international, mais évidemment, c'est le rapport du soviétique qui est le plus attendu. Et donc, le rapport Jdanov est connu parce qu'il expose une conception idéologique du monde qui répond à la conception idéologique exprimée dans la doctrine Truman de mars 1947. Donc ces deux textes sont systématiquement mis en rapport, la conception américaine et la conception soviétique. Par contre, on fait toujours un énorme contresens dessus en présentant ce rapport comme une description. Comme si Jdanov était un génial géopoliticien qui, en une seule phrase, le monde est désormais partagé entre le camp capitaliste et antidémocratique d'une part et le camp démocratique et anticapitaliste de l'autre. On le présente comme un génial géopoliticien qui a su, en une phrase frappante, résumer la situation du monde. Mais ce n'est pas du tout le cas. Certes, les tensions sont croissantes, mais ce texte n'est pas un constat, c'est une prescription. C'est un programme d'action. Jdanov explique ce que désormais les partis communistes vont devoir dire, qu'il s'agisse de grèves de mineurs, qu'il s'agisse de revendications catégorielles, de discussions sur les programmes scolaires, ou quel que soit le champ d'action, le domaine d'action des partis, il va falloir utiliser ce prisme systématique de l'opposition irréductible, inconciliable, entre deux univers et deux conceptions. Donc ce rapport dit qu'il n'y a plus de troisième voie possible, qu'il n'est plus possible d'être communiste dans l'opposition, mais soutenant parfois certaines décisions gouvernementales quand elles vont dans le sens d'intérêt de la classe ouvrière, par exemple. Et à partir de là, tous les partis politiques deviennent des adversaires politiques. Le Parti socialiste, avec qui il y avait souvent une entente de fait, voire même des projets de fusion à un certain moment, devient un adversaire. On parle des socialistes de droite, avec un vocabulaire extrêmement agressif, les chiens courants du socialisme, etc. etc. Les partis communistes n'ont plus d'autre choix que d'être soit au pouvoir en maîtrisant tous les rouages et en éliminant ou en soumettant les autres partis politiques sous couvert de front populaire, de front national, de front démocratique, soit d'être dans l'opposition stricte, sans aucune concession, sans aucune transaction avec aucun parti politique. Donc le rapport Jdanov, c'est l'annonce d'une politique de guerre froide. Autant la doctrine Truman parlait d'endiguement pour limiter une forme d'influence communiste, là on a la réponse. Dans tous les domaines, il y a désormais plus de troisième voie possible. L'on ne peut qu'être avec ou contre, mais pas au milieu, pas neutre, pas attentiste, pas neutraliste, pas intermédiaire.
Est-ce qu'on voit ces partis communistes agir en fonction de ce rapport Jdanov rapidement ?
C'est très net. En France, dès le mois d'octobre-novembre 1947 sont le moment de grandes grèves qui partent de la base mais sont récupérées ensuite par le Parti communiste. L'automne 1947 en France est extrêmement tendu, avec même un déraillement de train qui fait plusieurs morts à la suite d'un acte de sabotage. Donc l'on craint à un certain moment une forme de guerre civile. Il faut se rappeler que la guerre a fini 2 ans avant. Les partis communistes étaient dans la résistance, donc il reste des caches d'armes, il reste de façon légère. Je vous renvoie au petit monde de Don Camillo. Ce monde partagé en deux, où on a été alliés, on est désormais opposés, mais il reste des habitudes de maquis, de clandestinité. Ce monde est toujours présent 2 ans après la guerre, et l'on craint que finalement le parti communiste n'ait caché des armes, ne passe à l'insurrection, etc. Très très vite, il y a un raidissement qui se manifeste, des nationalisations systématiques, de réels incidents diplomatiques qui créent des tensions majeures entre la France et l'URSS, par exemple l'affaire du camp de Beauregard, etc. La tension monte d'un cran de façon très nette, et la politique soviétique dans les pays d'Europe de l'Est prend un tournant qui est celui de l'alignement, en fait. Autant jusque-là il y avait une forme d'autonomie, autant désormais les partis communistes prennent le pouvoir de façon légale ou sous forme de coup d'État pour contrôler tous les domaines de l'économie et du politique. Et cela se fait sous le joug de Moscou, avec un langage unifié, des slogans unifiés, une idéologie complètement unifiée, extrêmement tranchée, dénonçant toutes les formes de l'influence bourgeoise, de culture bourgeoise, de politique réactionnaire, etc. Et l'action des partis communistes est organisée dans le cadre du Cominform, littéralement bureau d'information, qui regroupe les 9 partis qui ont participé à la conférence polonaise. Et le Cominform, qui existera une dizaine d'années, énonce le dogme, littéralement. C'est un dogme qu'il faut proclamer et qui pourra aller très loin.
Voilà pour le 23e épisode de notre feuilleton, qui, comme tous les autres évidemment, cet épisode vous pouvez le télécharger séparément du reste de l'émission d'aujourd'hui pour pouvoir garder avec vous l'ensemble de cette série, donc consacrée à la fabrique de la guerre froide et préparée par Anaïs Quien. Bonjour à vous Éric Bussière.
Bonjour.
Et bonjour à vous Yannick Ripin.
Bonjour.
Merci d'être venus tous les deux pour pouvoir nous présenter une initiative extrêmement originale, pourrait-on dire, puisque c'est d'abord un laboratoire d'excellence qui s'appelait Écrire une histoire nouvelle de l'Europe, qui rassemble des centres de recherche très nombreux, qui par l'intermédiaire de ces centres de recherche, conçoit et imagine une encyclopédie pour une histoire nouvelle de l'Europe en ligne. Cette encyclopédie. Alors, qu'est-ce que c'est exactement, Éric Bussière, que ce laboratoire d'excellence et cette encyclopédie que vous nous présentez aujourd'hui ?
Bon, ce laboratoire d'excellence, il réunit 5 gros laboratoires d'histoire répartis sur Paris et Nantes, et il réunit environ 200 chercheurs. Bon, c'était une innovation liée au programme d'investissement d'avenir lancé il y a 4 ans, et par conséquent, c'est un ensemble d'équipes qui travaillent autour d'un certain nombre de projets.
Alors, et parmi ces projets, il y a en particulier ce projet d'une encyclopédie pour une histoire nouvelle de l'Europe. Alors, il faudrait presque prendre chacun des termes séparément pour comprendre ce qu'est cette encyclopédie en ligne et pourquoi faire une histoire nouvelle de l'Europe.
Alors, on va prendre dans le sens contraire. Europe, d'abord, c'est l'espace dans sa globalité que nous essayons d'appréhender et ses prolongements dans le monde. Par conséquent, c'est une histoire qui se veut globale, qui se veut totale et qui essaye d'appréhender l'Europe comme objet dans sa globalité. Et ça, c'est la grande originalité. C'est un exercice ambitieux, difficile, mais nous pensons nous en rapprocher assez bien. Le deuxième élément, nouvelle. Pourquoi c'est nouveau ? Eh bien, parce que ce sont des universitaires qui travaillent, mais avec le souci de mettre à disposition d'un public plus large, des amateurs éclairés, des enseignants du secondaire, des étudiants, des collègues, car nous ne sommes pas spécialistes de tout ce que nous traitons.
Bien sûr.
Et par conséquent, nous apprenons aussi. Hein, donc l'idée est de mettre à leur disposition un certain nombre d'éléments, de données, de la recherche actuelle et de la recherche en cours.
En train de se faire.
Ah ben, certaines notices sont le produit de tables rondes et réunions de travail que nous avons. Et donc, il y a un lien direct entre l'histoire qui se fait et celle que nous livrons au public.
Et cette encyclopédie, pour l'instant, rassemble sept thématiques. Civilisation matérielle, épistémologie du politique, humanisme européen, l'Europe, les Européens et le monde, guerre et traces de guerre, histoire genrée et l'art en Europe. Et vous êtes vous-même, Yannick Ripin, responsable justement de cette sous-section, pourrait-on dire, de l'encyclopédie autour de l'histoire. L'histoire du genre, l'histoire genrée. Alors, comment travaillez-vous pour qu'on comprenne comment ces articles arrivent justement sur ce site Encyclopédie pour une histoire nouvelle de l'Europe, ce qu'il y a dedans et comment les chercheurs qui travaillent avec vous, Yannick Ripin, conçoivent justement leur travail pour cette encyclopédie en ligne ?
Alors, la nouveauté, c'est d'une part de poser qu'il existe une histoire genrée de l'Europe, ce qui bien évidemment n'a absolument pas été fait. Donc la méthode de travail a été de construire cet axe avec des entrées, comme des immenses chapitres, comme le droit civil, des révolutions européennes genrées, l'homme européen, un mâle dominateur. Certains titres sont pris de façon...
La virilité. À la preuve des guerres.
Voilà, la virilité à l'épreuve de la guerre. Qu'est-ce qu'en clair l'Europe fait au genre et qu'est-ce que le genre fait à l'Europe ? Et c'est vraiment sans doute un des actes qui peut porter le mieux la nouveauté, puisque l'histoire du genre et l'histoire genrée est très récente. Et à partir de ces chapitres, nous avons fait appel à des collègues à travers toute l'Europe. Et l'un des intérêts est de même changer notre propre regard, parce qu'on a une vision européenne à travers plutôt une addition de pays qu'une vision globale. Comme disait Éric Bussière, le but est d'être au-dessus, si j'ose dire, de l'Europe, et non pas de faire des chapitres sur l'Angleterre, sur l'Allemagne, ce qu'on souvent présentait, même très brillamment, hein, c'est pas du tout une critique, c'est une évolution historiographique, les livres il y a quelque temps. Et à partir de là, on s'aperçoit que les pays qu'on pensait dominer l'Europe au niveau, mettons, de la marche vers l'égalité des sexes, ce ne sont pas nécessairement ceux-là. On bouge les espaces, on bouge les chronologies et on voit apparaître une grille de lecture qui ensuite peut, à travers l'encyclopédie, être croisée avec d'autres. Et c'est là une des très grandes richesses de l'encyclopédie, c'est que si nous avons fonctionné par axe, finalement, à la fin, le lecteur ne le verra pas parce que nous croisons toutes nos données.
Éric Bussière.
Oui, ça c'est un des éléments les plus intéressants. On est parti d'un ensemble de thématiques que nous traitons dans leur autonomie et nous confions les articles à des gens qui connaissent très bien les sujets. Mais le souci que nous avons, c'est les interactions entre ces thématiques. Et si vous lisez un certain nombre d'articles, vous verrez que le lien entre le culturel et le politique, la guerre, le politique, le champ des relations internationales, le politique, le culturel sont étroitement liés. Et vous avez même des articles sur les formes de l'écriture de l'histoire. Il y a un article que je relis souvent avec plaisir sur la bande dessinée et l'écriture de l'histoire, à propos des guerres en particulier. Par conséquent, on est à l'intersection de champs qui permettent de comprendre l'Europe dans sa complexité. On dit souvent que l'Europe est un projet. Nous faisons un projet et nous essayons d'appréhender les choses, non pas dans leur rigidité, leur fixité, mais dans leur dynamique passée et future.
Alors, Yannick Ripin, ça doit être quelquefois difficile de travailler ensemble quand on est dans des centres de recherche différents, avec peut-être aussi une vision qui n'est pas toujours la même de l'Europe. Comment faire justement parce que c'est aussi une des questions quand on travaille en histoire sur la question européenne, il y a parfois des visions très différentes de l'Europe. Comment faire justement pour que tous vos centres de recherche concourent à un même projet autour de cette question européenne et en renouvelant les objets, puisque c'est ce que vous faites.
Oui, alors ça va même au-delà de nos propres laboratoires. C'est ça aussi qui est formidable. On n'aurait jamais pu faire un projet pareil, en dehors du fait que c'est une encyclopédie numérique. Mais sans Internet et sans une possibilité de contact à travers toute l'Europe, voire au-delà de l'Europe, parce qu'on a des Canadiens qui travaillent sur l'Europe, des Américains du Nord ou du Sud qui travaillent aussi. Et Internet permet un dialogue avec les chercheurs et un nombre d'allers-retours des notices qui sont envoyées où l'équipe relie ces notices, bon, en premier les personnes qui dirigent évidemment, hein, et ensuite on a même une relecture au sommet, si j'ose dire, par des personnes qui ne sont pas du tout spécialisées de ce chapitre-là.
Donc vous êtes Anastasie, vous coupez, vous...
On peut éventuellement demander aux collègues l'autorisation de réduire un petit peu au niveau des
pour
signes.
Pour que ce soit grand public, justement.
Voilà. Il y a un niveau d'écriture qui est demandé pour que ce soit accessible à tout le monde, tout en arrivant à expliquer les dernières recherches historiographiques, c'est-à-dire vulgariser au sens positif du terme les recherches. Et puis aussi des regards croisés à travers toute l'Europe, ce qui fait que on va aller poser des questions à des collègues pour lesquels ça paraît une évidence, ce qu'ils énoncent, alors que lorsqu'on n'est pas spécialiste soit de ce pays, soit de ce point de vue-là, eh bien ça permet d'améliorer les notices. C'est un énorme travail, mais je dois dire que le premier résultat arrivant, on va le dire, assez content.
Oui, alors il y a effectivement des profonds renouvellements historiographiques, vous l'avez dit, en histoire du genre, où quand on lit les notices, par exemple, de notre camarade Mathieu Flonneau, qui travaille évidemment sur l'automobile, mais qui d'un seul coup écrit un article sur Kafka comme témoin du premier meeting aérien international à Brescia en 1909. Alors on se dit, tiens, c'est vrai que j'avais pas pensé que Kafka avait pu être témoin de ce premier meeting international aérien de 1909 à Brescia. Et d'un seul coup, effectivement, on a une vision très différente de ce qu'est cette histoire de préparation à la guerre, de cette histoire culturelle et histoire des techniques, puisque c'est ce qui est mélangé dans cet article, par exemple. Alors, tout de même, une des questions que je me suis posée en naviguant, parce que c'est ce qu'on fait en naviguant dans une encyclopédie en ligne, c'est comment vous arriverez au bout du compte, Éric Bussière, à faire de ces passions privées, pourrait-on dire, de chercheurs, ces intérêts pour des sujets qui leur sont chers, par exemple, une encyclopédie globale avec 200 contributions minimum de ces chercheurs, etc. Chacun d'entre eux ayant son univers, son approche, etc. Comment faire en sorte que tout cela soit synthétisé et que pour le lecteur, celui qui navigue dans le site, eh bien, il se dise, oui, tiens, j'ai bien compris, c'est un renouvellement profond de la vision qu'on peut se faire de l'histoire de l'Europe, Éric Bussière.
Alors, déjà, la première chose, 600 ou 700 notices en fin de parcours, actuellement.
Fin de parcours, c'est 2019.
2019. Et nous pensons que l'encyclopédie survivra, sera enrichie, mise à jour, renouvelée. Mais disons que
c'est la première étape. C'est le financement lié au laboratoire d'excellence qui fait que vous vous arrêterez en 2019, à moins qu'il y ait la volonté de continuer.
Je pense qu'on pourra continuer sous des formes et avec des financements adaptés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que chacun des responsables des thèmes a un programme à mettre en place. Donc, il y a une structure qui est mise en œuvre et cette structure,
des colloques, des journées d'études.
Alors, il y a une structure de thématiques pour l'encyclopédie, et puis ça s'appuie sur un certain nombre de travaux, des colloques, des journées d'études, etc. Et puis ça s'appuie également sur un certain nombre de logiques transversales que nous mettons en place actuellement encore, et par conséquent, nous réunissons des chercheurs relevant de plusieurs champs autour d'une même thématique, et l'un des éléments les plus intéressants, ce sont les liens entre ces différentes thématiques qui apparaissent déjà dans plusieurs articles,
absolument,
et qui vont être amenés à se développer. Alors, il faut savoir que parallèlement à tout cela, il y a des ouvrages de synthèse ou de pré-synthèse qui sont rédigés en parallèle avec l'encyclopédie et tout cela s'enrichit et se complète. Mais effectivement, l'Europe est un objet très difficile à saisir. Tout le monde le sait, les politiques n'y arrivent pas. Parfois, ils affirment des choses qui ne correspondent pas toujours aux réalités. L'appréhension que nous avons
chacun... Vous êtes vous-même spécialiste d'histoire de l'Europe en plus,
Éric Bussière. Oui, mais je ne prétends pas tout appréhender. Et bien, ça, c'est un des éléments. C'est quelque chose que nous appréhendons de façon partielle autour d'un certain nombre d'éléments. Et la convergence de ces éléments, de ces lignes d'analyse, c'est ça qui permet d'appréhender mieux un objet qui n'est pas simple.
Alors, c'est vrai que l'ambition est démesurée, pourrait-on dire, Yannick Ripa, c'est-à-dire à la fois faire le point des recherches sur des champs encore en profond bouillonnement, pourrait-on dire. L'histoire
Absolument.
Du genre en fait partie.
Oui, oui.
Mais le faire pour un public plus large que celui des spécialistes. Donc, effectivement, dans des notices qui sont relativement restreintes pour que, justement, tout le monde puisse avoir accès à ce qui se fait, mais de façon simple et compréhensible par tous. Ensuite, imaginez qu'il faut le faire en français et en anglais, parce que vous n'êtes pas arrêté à ces premières difficultés, en l'occurrence,
oui.
Il n'y écrit pas.
J'en espère même un jour que si on aura aussi l'allemand.
Puis ensuite, effectivement, peut-être publier en parallèle des ouvrages, c'est assez gigantesque comme travail.
Oui, d'ailleurs, les traductions, des fois, se font dans les deux sens. C'est-à-dire que nous avons des chercheurs qui ne parlent pas français. Donc, on ne va pas se limiter aux chercheurs français, ce qui serait quand même
dommage
tout à fait
pour une histoire de l'Europe.
Pour une histoire de l'Europe. Oui, et on a le sentiment que de demander des synthèses oblige justement les chercheurs à aller plus loin. C'est-à-dire que souvent, et ce n'est pas du tout un reproche, mais quand on fait des ouvrages collectifs, on a les uns et les autres souvent l'habitude de donner une contribution que nous appelons entre nous, qui était dans les tiroirs, si j'ose dire. Alors que là, on s'aperçoit, même quand on est spécialiste de l'Europe, et personnellement j'enseigne l'histoire de l'Europe au 19e siècle, eh bien on n'avait pas cette vision globale. Donc lorsqu'on demande une contribution à un chercheur, d'où le fait que les premières notices arrivent au bout de 3 ans, il va être obligé de réorienter lui-même sa recherche pour répondre à notre demande. Et ça, c'est extrêmement nouveau.
Éric Bussière.
Non, mais tout est dans l'écriture. Ça, c'est un élément qui paraît extrêmement important. Aller vers la synthèse et rendre accessible un certain nombre d'éléments oblige soi-même à essayer de les cerner mieux.
On ne peut que vous en féliciter, parce que parfois, quand on fait métier comme moi, comme nous ici à la Fabrique de l'Histoire, de lecture d'ouvrages savants, effectivement, on se dit il pourrait y avoir des efforts faits sur l'écriture. Et effectivement, vous les faites, ces efforts sur l'écriture pour l'encyclopédie, pour l'histoire de nouvelle
absolument. De l'Europe. Et puis, il y a des bibliographies qui permettent à celui qui veut aller plus loin de préciser
bien
les
sûr.
Choses. Il y a plusieurs entrées possibles. On peut élargir si on s'intéresse à tel ou tel thème. Mais on a une entrée déjà substantielle.
À chaque fois, il y a des renvois possibles sur le même sujet, donc disons sur le même axe, sur des sujets qui sont proches. Par exemple, quand on a une notice sur la virilité et la guerre.
La notice de Julie Legac qui a travaillé en particulier sur les aventures des soldats français dans la botte italienne.
Exactement.
Pendant la Seconde Guerre mondiale.
Et qui en ce moment est au Labesque. J'aime pas beaucoup le nom, en tant que post-doc, mais qui du coup participe énormément et est sans cesse en train de travailler avec moi, et c'est formidable. Et on voit donc cette notice-là, tout ce que Fabrice Virgili a pu apporter sur la dimension genrée de la guerre, et dans le même temps, il se la renvoie aux notices sur la guerre en Europe. Donc il y a un échafaudage, mais qui est peu visible à mon avis pour le lecteur au sens négatif du terme. Il n'est pas embrouillé.
Bien sûr.
Et c'est aussi la vertu du numérique. De surcroît, il y a une iconographie qui va avec chacune des notices, ainsi que, grâce à l'INA, des documents filmés que personne n'a jamais vus.
Et puis, puisqu'on parle d'iconographie, il faut peut-être mentionner effectivement l'arrivée bientôt sur ce site, autour de cette encyclopédie pour une histoire nouvelle de l'Europe, d'un fonds que vous appelez fonds Colbert. Ça n'est pas un fonds rassemblé par l'ancien ministre de Louis XIV, mais c'est un fonds que vous avez récupéré dans un lycée, c'est ça ?
C'est
dans
un
une
fonds
armoire.
Qui a été effectivement découvert, il faut bien le dire, au lycée Colbert, où il était entreposé, mais sans être utilisé depuis des décennies.
Par Lance Giordano, qui est professeur là-bas.
Absolument, et ça représente, disons, une vision globale de l'Europe entre 1880 et 1910, l'Europe de ses prolongements et des thématiques diversifiées qui correspondent d'assez près aux thématiques qui sont les nôtres. Donc ce fonds a été numérisé et il va être mis en ligne sur l'encyclopédie avec des entrées thématiques et géographiques dans les mois qui viennent.
Alors ça veut donc dire, pour conclure, Yannick Ripa, que si on se rend sur ce site aujourd'hui de l'Encyclopédie pour une histoire nouvelle de l'Europe, c'est un début de travail, pourrait-on dire. On comprend que déjà il y a beaucoup de contributions qui sont mises en ligne, mais que ça sera amendé, il y aura des ajouts en permanence chaque fois.
Oui, absolument. Il est clair que lorsqu'on va tomber sur ce site, il suffit pour l'instant de taper ehne.fr. Je vais le répéter un petit coup.
C'est sur le site de la Fabrique de l'Histoire pour tous ceux qui l'écoutent.
On ne veut pas que ce soit effectivement un objet clos, fini, ce qui est obligatoire pour les livres, même si nous avons tous republié des livres en les réactualisant. Mais là, la réactualisation, elle se fait tout le temps. Et j'ai envie de dire que l'actualité contraint aussi parfois, et malheureusement parfois, à repenser. Les attentats terroristes nous ont amenés à nous dire qu'en est-il du genre des terroristes, de l'implication des hommes et des femmes en tant qu'êtres sexués, si on peut dire comme ça, dans ces terroristes. Ou l'émergence du CARE, où l'on sait que les femmes ont
un rôle...
CARE,
le soin aux personnes.
Nous n'avions pas pensé à mettre cette notice, et l'actualité nous contraint à le faire, et ça aussi, c'est je pense, un point extrêmement positif.
Un dernier mot, Éric Bussière.
Écoutez, le dernier mot, c'est que c'est quelque chose de très complexe, de très ambitieux, et nous avions sous-estimé l'ampleur de la tâche.
Si nous avions su,
nous ne serions peut-être pas lancés. Mais au fond, c'est une construction de chaque instant.
C'est comme la construction européenne, vous me direz.
Absolument. Et par conséquent, je crois que là, nous sommes à un premier aboutissement et je suis extrêmement optimiste sur les évolutions.
Et vous avez raison de l'être, effectivement. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter cette encyclopédie pour une histoire nouvelle de l'Europe qu'on peut trouver d'ores et déjà en ligne, donc à cette adresse ehne.fr. Merci.
France Culture. La fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin.
Avec aujourd'hui Catherine de Copé. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Pour ouvrir notre semaine donc consacrée à l'histoire des protestantismes, vous nous avez préparé un documentaire demain sur la CIMAD, dont peu de gens savent peut-être que c'est une organisation d'accueil aux réfugiés, mais organisation d'accueil aux réfugiés d'origine protestante. Et puis ensuite, vous continuerez à être avec nous toute la semaine autour de la façon dont les protestants écrivent leur histoire, avec la revue d'histoire du protestantisme ou encore une émission consacrée à la question des lieux de culte des protestants. Et nous avons pour aujourd'hui, avec nous, depuis les studios de Radio France à Toulouse, l'historien Patrick Cabanel. Bonjour Patrick Cabanel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et merci à nos studios de Toulouse de vous accueillir. Vous êtes donc auteur d'un livre qui vient tout juste de paraître aux éditions Fayard, De la paix aux résistances, les protestants en France entre 1930 et 1945. Et on est d'ores et déjà un peu étonné parce que vous nous expliquez que effectivement il y a beaucoup d'articles sur ce sujet, la place des protestants pendant la préparation de la Seconde Guerre mondiale et pendant la Seconde Guerre mondiale, mais que effectivement il n'y a pas de livre de synthèse, ce que vous venez de faire avec ce livre, Patrick Cabanel. Il y a beaucoup de choses à raconter pourtant sur cette présence protestante dans la guerre, à la fois dans la résistance et parfois aussi dans le régime de Vichy.
Oui, beaucoup de choses ont été dites. Vous parliez à l'instant avec vos deux invités précédents de l'Encyclopédie de l'Europe. Juste, je prends la liberté de signaler que je co-dirige par ailleurs un dictionnaire biographique des protestants français depuis la Révolution jusqu'à nos jours, dans lequel on trouve, il y aura environ 5 à 6 000 notices, on trouve évidemment beaucoup de protestants actifs dans les années 40, les uns d'ailleurs du côté du régime du maréchal Pétain. Il y a eu des pétainistes, des maréchalistes, des collaborationnistes. Les autres, et sans doute plus nombreux, soit du côté de la résistance classique, soit, et c'est l'un des traits forts de l'identité de la minorité protestante en France, du côté du refus de l'antisémitisme, qui est très ancien, et de l'aide aux juifs. Et il est vrai qu'il n'y avait pas jusqu'à maintenant, il y a eu bien sûr des mémoires publiées, des actes de colloque, mais pas encore de livre de synthèse, ce qui est finalement la chance de l'historien qui s'efforce de l'écrire.
Alors, ce livre de synthèse, vous le faites démarrer dans les années 30. Et en fait, on est plongé tout de suite dans un débat qui semble avoir été un débat très vif en vous lisant, Patrick Cabanel, chez les protestants français par rapport à la prise de pouvoir de Hitler, puisque les liens, nous expliquez-vous, entre les protestants français et les protestants allemands sont évidemment très nombreux, mais également avec les protestants suisses, et que très rapidement, eh bien, non pas l'alarme est sonnée, mais très rapidement, une question est posée. Qu'est-ce que ce régime de Hitler? Qu'est-ce que ce régime nazi? Et que doit-on en penser quand on est un protestant, que l'on soit luthérien ou calviniste? Et là, on voit dans cette première partie, pourrait-on dire, de votre livre De la paix aux résistants, chez Fayard, Patrick Cabanel, que le débat est très vif avant même le début de la Seconde Guerre mondiale.
Oui, les protestants français sont une extrême minorité, c'est moins de 2% de la population française à l'époque, mais leur caractéristique, c'est leur lien vraiment, je dirais, génétique avec d'autres protestantismes en Europe, le protestantisme suisse francophone, mais aussi les protestantismes anglais, scandinaves ou allemands. Et à partir de 1933, ce qui fait la différence, si je puis dire, du point de vue de la curiosité de l'information entre les Français protestants et les autres, c'est cette sorte de curiosité douloureuse, obsessionnelle, pour ce que fait le régime nazi, non pas à l'époque aux Juifs, mais au protestantisme allemand, et au sein de ce protestantisme qui s'est rallié très majoritairement au régime, comme l'ensemble d'ailleurs des forces allemandes de l'époque, il y a dans ce protestantisme luthérien essentiellement, une minorité qui, dès 1933, avec beaucoup de persécutions, beaucoup de courage, va s'efforcer de résister de manière proprement spirituelle au nazisme. Cette minorité, on l'appelle la minorité confessante, elle a pour maître à penser un Suisse, qui est l'un des plus grands théologiens du XXe siècle, Karl Barth, qui est réformé, ou calviniste si vous préférez, de confession, mais de langue germanique, qui est à l'époque est professeur à l'université de Bonn en Allemagne, et qui va fourbir les armes proprement théologiques.
De la résistance spirituelle.
Une résistance.
Voilà. Oui, alors, et ce Karl Barth... va venir à de très nombreuses reprises, expliquez-vous, dans les années 30 en France. Il va en particulier aller dans des territoires protestants, par exemple du côté de l'Ardèche ou des Cévennes. Il va professer effectivement son anti-nazisme. Il va expliquer en quoi le nazisme est dangereux. Et il va même... avant même, au moment de la déclaration de guerre, écrire une lettre aux protestants français en leur expliquant « Faites attention, ce qui est en train de se passer est catastrophique ». Il va même en écrire une seconde en octobre 1940, dans laquelle il dit « Dans l'Église de France, la guerre doit continuer spirituellement. L'Église de France ne saurait conclure la paix ou l'armistice avec Hitler ». Et vous dites que le poids de Karl Barth dans une partie de la communauté protestante française a été très important pour cette prise de conscience, dès l'origine de la guerre, du danger hitlérien.
C'est un poids décisif, en particulier dans les élites du protestantisme français, les élites théologiques, les étudiants aussi qui appartiennent à des unions chrétiennes de jeunes gens, c'est le nom technique, et qui sont en train de passer au barthisme. Il y a une sorte de conquête théologique du protestantisme français par cette théologie. Et vous l'avez dit à l'instant, Barth, à la demande d'ailleurs de ses amis protestants français, notamment les théologiens Pierre Maury et Georges Casalis, rédige des lettres ouvertes aux protestants français. La première sera publiée, avec censure d'ailleurs. La seconde sera proprement clandestine, puisqu'elle est postérieure à la défaite et à l'armistice. Et voilà ce que dit précisément Barth, c'est que si la France politique a signé l'armistice, l'Église du Christ ne peut pas signer d'armistice avec, en quelque sorte, l'antéchrist que représente le régime nazi. Et c'est le début d'une résistance spirituelle, mais qui ne résume pas toutes les formes de résistance du protestantisme français. Il y a aussi, à côté de cette influence barthienne, il y a le grand trait de la mémoire huguenote, c'est-à-dire d'une minorité qui s'est toujours persécutée. En France défiée de l'État et qui va à nouveau se défier, alors là pour le coup, dans un premier temps, de l'État pétainiste.
Catherine de Copé.
Oui, Patrick Cabanel, ce débat théorique d'abord sur l'allégeance, la réflexion finalement sur résister, ne pas résister, va se traduire totalement sur le terrain, notamment par rapport aux camps d'internement puis camps de transit vers la déportation. C'est une question que va se poser la CIMADE. Finalement, comment on fait pour à la fois témoigner et en même temps agir? Donc c'est toujours cette question-là du positionnement finalement par rapport à ce qui se passe au moment présent.
Oui, la CIMADE dont vous allez reparler dans quelques jours, au départ c'est une organisation de jeunesse protestante dont l'objectif est, si j'ose dire, très confessionnel et très communautariste, entre guillemets. Il s'agit, en 1939, d'aider tout simplement les populations alsaciennes que la France a contraintes
et
mosellanes,
ouais,
se retirer dans le Limousin, et d'aider, oui c'est ça, et d'aider alsaciennes mosellanes, et d'aider donc la partie proprement luthérienne de ces transportés entre guillemets vers la France de l'intérieur, le Limousin. Et une fois que la défaite est consommée, l'armistice signé, la CIMADE s'interroge sur son devenir puisque les Alsaciens rentrent pour la plupart chez eux. Et c'est à ce moment-là que elle apprend la mise en place dans la France de Vichy de camps d'internement, c'est le mot officiel, particulièrement le camp d'internement de Gurs, où viennent d'arriver, c'est ce qu'elle apprend, des convois ferroviaires qui installent dans des conditions déplorables à Gurs des juifs de l'Allemagne rhénane, dont l'Allemagne nazie s'est littéralement débarrassée en France. Et la CIMADE change radicalement de point de vue, décide et parvient à entrer dans ces camps d'internement de manière officielle et décide donc d'aider les populations internées. Ça peut être les républicains espagnols, qui sont nombreux à Gurs. Ça peut être aussi les réfugiés anti-nazis allemands ou autrichiens de la fin des années 30, qui sont également internés. Et puis, enfin, c'est juifs. Et c'est le début d'une autre époque de l'histoire de la CIMADE et plus globalement du protestantisme français, c'est-à-dire, oui, des formes de résistance avec ces réflexions théologiques menées sur qu'est-ce qui est de Dieu et qu'est-ce qui est de César. Et c'est quelque chose qui n'est absolument pas neuf, par ailleurs, dans le christianisme.
Bien sûr, et vous rappelez effectivement que ces huguenots français, on relie régulièrement leur expérience de la persécution à l'expérience de la persécution des juifs, que pour des raisons théologiques, culturelles, historiques et sociologiques, eh bien, il y a des affinités, et vous expliquez comment, assez rapidement, les premières mesures anti-juives vont donner lieu justement à une prise de conscience des protestants français de faire quelque chose. Alors, tout de même, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi, expliquez-vous, des protestants qui sont à Vichy, qui ont rallié le régime du maréchal, et qui sont parfois mal à l'aise, ou pas du tout mal à l'aise, par rapport à ces prise de décision de mesures anti-juives, et il y a là des tensions à l'intérieur de la communauté protestante, dont le pasteur Bögner, qui dirige la fédération à l'époque, est le témoin d'une certaine façon dans sa propre chair, puisqu'il est à la fois assez proche du maréchal, très favorable à certaines des politiques mises en place par Vichy, et de l'autre côté, qu'il a aussi en charge cette question de sauver des juifs dans la France occupée.
Oui, on peut dire que les protestants français sont à la fois des Français comme les autres et des Français pas comme les autres. Si on les prend comme des Français comme les autres, ils ont réagi au départ comme l'immense majorité des Français, c'est-à-dire avec une sorte de soulagement, qu'on le dise lâche ou pas, à l'égard donc de l'armistice, de l'arrivée au pouvoir du maréchal. Ils ont été globalement maréchalistes, pour ne pas dire pétainistes, c'est-à-dire ce ralliement à la personne du maréchal. Et il y avait par ailleurs dans le protestantisme français, il y a toujours une surreprésentation des classes dominantes, des élites, et qui étaient plutôt tentées effectivement de se rallier à un régime anticommuniste.
Et vous dites d'ailleurs qu'il y a trois parlementaires protestants simplement qui ont voté non au plein pouvoir à Pétain en juillet 1940.
Voilà, c'est-à-dire que il n'y a pas sur cette affaire-là, il n'y a pas de vraies différences protestantes, et le contraire aurait été étonnant. Ils réagissent comme d'autres Français sur ce plan-là. Il y a aussi chez certains pasteurs, dont le pasteur Bögner, qui est à l'époque le président de tout ce qui a présidé dans le protestantisme français, il y a aussi une forme, alors là pour le coup, d'affinité, je dirais, moralisante. avec le premier régime de Vichy, le régime de Vichy qui lutte contre l'alcoolisme,
et
contre
les bouilleurs de crue,
comme disait à l'époque, voilà. Et ça séduit beaucoup ce puissant moralisme des protestants français et des protestants tout court qui détestent tout ce qui est de l'ordre de la pornographie ou de l'alcoolisme. Mais l'autre dimension, c'est que ces mêmes protestants français ne sont pas, à l'époque surtout, des Français comme les autres, parce que ils ont cette puissante,
cette longue histoire.
Voilà,
et de longue mémoire aussi.
Ils ont 4 siècles derrière eux de mémoire de persécution. C'est une mémoire qui est très vive à l'époque, plus encore qu'aujourd'hui. Une mémoire qui a déjà à l'époque ses lieux, ses icônes. En particulier, les protestants se souviennent comme un seul homme de l'affaire Calas, ou comme une seule femme, si vous voulez. Et c'est la raison pour laquelle ils ont réagi de manière quasiment unanime au moment de l'affaire Dreyfus, voyant dans l'affaire Dreyfus une sorte de répétition, de bégaiement de l'histoire. Et donc, dès que le régime de Vichy commence à toucher aux Juifs, avec le premier puis le second statut très tôt, ils sont au minimum mal à l'aise, parce que ça évoque en eux, ça réveille en eux des échos, des mémoires, des lésions que n'ont pas ni les autres Français, ni du reste les autres protestants en Europe. C'est vraiment lié au fait protestant huguenot français.
C'est d'ailleurs ce que vous aviez déjà déterminé dans votre très belle histoire des protestants de France chez Fayard en 2012, Patrick Cabanel. C'est cette idée que, et vous le redites dans votre livre de la paix aux résistances, toujours chez Fayard, les protestants en France 1930-1945, que cette minorité protestante serait une minorité sentinelle, dites-vous, parce qu'elle sent venir effectivement quelque chose dans cette guerre et dans les mesures qui sont prises au moment de cette guerre par à la fois le régime d'occupation, mais également par le régime de Vichy. Elle sent venir quelque chose qui est une menace pour la vie et pour la démocratie, bien évidemment.
Oui, c'est un groupe, le groupe huguenot-français, qui réagit en fonction de son histoire, et qui est une histoire qu'il a racontée pendant des siècles, avec, je dirais, comme modèle, il faut le dire, l'Ancien Testament.
Bien sûr.
Il y a vraiment une sorte de mimétisme hébraïsant, qu'on retrouve d'ailleurs chez d'autres, dans d'autres minorités religieuses en Europe. Je songe aux Hussites en Bohême et aux Vaudois en Italie. Et cette culture hébraïsante fait que les protestants, je dirais, sont vraiment à fleur de peau dès que un régime politique semble retrouver des réflexes, on va dire, cléricaux. Il y a eu d'ailleurs, au tout début du régime de Vichy, chez certains protestants, notamment dans le Midi, le Midi Cévenol, le Midi Rouge, le Midi Camisard, il y a eu des inquiétudes. L'idée que, après s'en être pris aux francs-maçons, il y avait beaucoup de protestants chez les francs-maçons, à la laïcité, ils sont aussi, je dirais, des fervents de la laïcité, et aux Juifs, l'idée que peut-être ce régime maurassien, Maurras détestait les protestants, allait s'en prendre à eux-mêmes. Ils ont été très vite rassurés sur ce plan-là, mais sur le plan des Juifs, même, je dirais, les plus proches du maréchal Pétain, je songe à René Gillouin, fils de pasteur maurassien,
qui ancien avait normalien et qui est une plume du maréchal, c'est ça?
Voilà, c'est l'une des plumes du maréchal. Il est prêt à accompagner le maréchal très loin et très tard, mais pas sur la question juive. Et la lettre de rupture qu'il envoie au maréchal, elle est très belle, elle est très huguenote. Il lui écrit: Monsieur le maréchal, à côté de vos lois juives, la révocation de l'édit de Nantes était une bergerie. Étrange expression. Et donc, à ce moment-là, il rompt. Et le pasteur Buckner, lui, il n'a pas le même type de proximité idéologique, mais il croit très longtemps qu'il pourra, par ses amitiés, notamment avec Darlan, qui est un ancien camarade d'école préparatoire à Naval.
Infléchir, il pense qu'il pourra infléchir la politique.
Il peut négocier. Il pense aussi qu'il est en quelque sorte l'alter ego du cardinal Gerlier de Lyon, qui a un peu la même attitude, à la fois maréchaliste, et l'idée qu'entre gens de bonne compagnie, entre ministres, entre guillemets, les uns de l'Église catholique ou protestante, l'autre de la France, on pourra négocier et adoucir, notamment le statut des Juifs.
Ce que vous racontez bien, Patrick Cabanel, c'est effectivement ces tensions entre ces différents niveaux de la hiérarchie protestante en France, effectivement, parce que lors d'un moment de rassemblement dans les Bouches-du-Rhône à Pomerol, vous expliquez bien comment, et bien d'un côté, Buckner arrive tout juste d'un conseil national à Vichy, et de l'autre côté, que des pasteurs et des gens de tout un tas de mouvements protestants sont là, et qui n'ont pas du tout la même vision des choses, ce qui se se reproduira l'année suivante en 1942, toujours au même endroit. Il y a effectivement différentes appréciations, pourrait-on dire, des protestants, selon que l'on se situe dans le haut de la hiérarchie ou au contraire au Chambon-sur-Lignon ou dans d'autres endroits comme ça du refuge protestant.
Oui, il y a à la fois des lignes et des clivages proprement théologiques face à l'État, face aux autorités d'occupation. Il y a aussi, je crois, des tempéraments personnels. Et le pasteur Bögner, il est, je dirais, dans les habits d'une sorte de super consul des protestants français. Il est un fils de préfet. Il pense pouvoir négocier avec les autorités. Mm-hmm. Alors que d'autres de ses collègues, d'ailleurs, je pense au numéro 2 du protestantisme français de l'époque, le pasteur Bertrand, qui est un méridional, qui est pasteur à l'Oratoire du Louvre, qui prêche tous les dimanches avec d'autres collègues dans Paris occupé et quelquefois avec des soldats allemands protestants qui sont dans l'auditoire.
Magnifique prêche, Bertrand, en 1942, je crois, ou 41, un magnifique prêche de...
Juin 42 pour le dimanche d'obligation du porte de l'étoile jaune pour les Juifs, où en chair, publiquement, il dit aux Juifs qu'il souhaite que ce qui avait été voulu par le régime de l'autorité d'occupation comme un signe d'humiliation, ils en fassent un signe de fierté. Et il ajoute que partout, des enfants de 7 ans sont persécutés. L'Église du Christ est avec eux. Mmh. Et Bertrand, il était plutôt comme d'autres, comme le pasteur de Pury à Lyon, comme le pasteur Trocmé au Chambon-sur-Lignon, que vous venez de citer. Eux, ils auraient été plutôt dans une posture, si je veux dire, à la hollandaise ou à l'allemande, c'est-à-dire une posture d'Église confessante qui, publiquement, résiste spirituellement. Il y a eu ces deux clivages. Et finalement, à partir de l'automne 42 et de la grande rafle de zones non occupées d'août 42, le pasteur Bögner va à son tour et l'ensemble du protestantisme vont à son tour entrer, alors là clairement, dans toute une série, toute une palette de clandestinité, notamment des passages de juifs vers la Suisse.
Catherine Decopé, une dernière question à Patrick Cabanel pour son livre De la paix aux résistances.
Oui, alors c'est vraiment ce mouvement de passage dans la résistance qui va concerner également tous les mouvements de jeunesse, et vous parliez de personnages importants et notamment des hommes de l'époque. On a oublié de parler de Madeleine Barrault, figure très très importante pour la CIMAD, j'y reviens, mais bien c'est vrai sûr. Qu'il faut parler aussi des femmes à ce moment-là, Patrick.
Oui, ou Suzanne de Dietrich ou d'autres.
Absolument. Je crois que les deux grandes figures, il y a aussi la résistante Bertie Albrecht et tant d'autres, mais les deux grandes figures de cette résistance fondée spirituellement, c'est Suzanne de Dietrich, la bibliste, qui par exemple avait fait scandale en 1938 en dénonçant la paix de Munich. Et puis l'autre grande figure, c'est Madeleine Barrault, l'organisatrice et l'animatrice de la CIMAD, mais plus largement, c'est la CIMAD elle-même. À l'époque, dans la CIMAD, sauf deux ou trois hommes, il n'y a que des jeunes femmes, on les appelle les équipières, qui ont fait preuve, il y a aussi l'épouse d'André Philippe, qui ont fait preuve d'un courage physique extraordinaire. Et je crois que l'une des belles pages à la fois de l'histoire du protestantisme, de la résistance et de l'histoire des femmes, ce sont ces équipières de la CIMAD qui avaient 18 ans, 20 ans, et qui ont passé à partir de 42 jusqu'à la fin de la guerre, qui ont passé ces années-là dans des activités permanentes de clandestinité, avec des risques physiques évidents, notamment pour faire sortir le plus grand nombre possible de juifs des camps, les amener jusqu'au refuge, si l'on peut dire, suisse, avec souvent comme lieu de, je dirais, d'attente et de préparation à l'exil, soit Valence dans la Drôme, soit évidemment le Chambon-sur-Lignon.
Merci Patrick Cabanel. On en apprendra beaucoup plus en lisant votre livre De la paix aux résistances, les protestants en France, 1930-1945 chez Fayard. Et justement, ça fait la liaison avec l'émission de demain que vous avez préparée avec Françoise Camard sur la CIMAD, mais dans les années 60 et 70.
Donc l'association CIMAD est née en 1939 et elle s'est spécialisée progressivement pendant la guerre et après sur l'aide aux personnes déplacées et aux populations juives. Et finalement, dans ces années 60, elle va s'intéresser de plus en plus aux étrangers et aux réfugiés. Mais avant de vous en dire plus, je vous propose une petite présentation sonore de ce travail.
Il y avait des étudiants d'Angleterre, des Haïtiens, des Cambodges, je pense, et des Africains. Et on communiquait par des signes uniquement. Et avec les Haïtiens, c'était plus intéressant parce que eux, ils parlaient moitié en espagnol et moitié en français. Donc pour nous, on arrivait à se comprendre mieux. Voilà.
Une fois qu'on passe cette porte, plein de souvenirs. Je trouve que rien n'a changé. Le même chemin qui nous amène vers la cafette, vers ce qui fonctionnait à l'époque comme salle de restauration.
Moi, j'avais acheté un bon poste radio très, très performant. Et tous les Colombiens venaient chez moi pour écouter la radio de leur pays, Sutatenza, Caracol. Et bon, ça les, ils étaient épatés de voir un poste qui peut regarder des émissions de Colombie. Voilà, donc cet objet, je l'ai toujours. Hein, donc ce poste de radio, c'est un souvenir.
C'est l'anecdote qu'il me raconte toujours mon frère, qui était son voisin de chambre, que quand tu entendais à la radio de Nouvelles d'Argentine, ouais. Tu tapais au mur pour qu'ils viennent entendre les
Ouais.
Massy était le seul lieu de vie où étaient accueillis et hébergés des demandeurs d'asile. Ce type de rencontre quotidien, de vivre ensemble, c'était seul Massy qui l'offrait. Le souvenir que j'en garde maintenant et que j'ai vécu, et avec André, c'est un des meilleurs souvenirs que nous avons gardés parce qu'on a rencontré des gens formidables. Quand on habite sur le même lieu, il y a des moments hors bureau, hors formalité, autour d'un café où s'échangent des choses en profondeur.
C'est vrai, on arrive déprimé, mais on en sort complètement épanoui, quelque sorte.
On l'a compris dans ce documentaire que vous avez réalisé avec Françoise Camard, La Cima d'Amassi, une histoire de refuge qu'on écoutera demain. C'est l'histoire de ce foyer international de la Cima d'Amassi dans l'Essonne qui naît dans ces années 60.
Oui, qui est au départ un foyer pour étudiants étrangers et qui va se muer en centre d'hébergement pour réfugiés face aux vagues d'arrivées successives des réfugiés, notamment d'Amérique latine.
Et si on veut comprendre effectivement cette longue histoire des réfugiés que nous connaissons aujourd'hui par d'autres soubresauts, eh bien il faut absolument écouter ce documentaire de demain. Nous continuerons notre semaine mercredi par la façon dont les protestants écrivent leur histoire à l'occasion du lancement d'une nouvelle revue qui prend la succession d'une bien plus ancienne, en l'occurrence qui s'appelle maintenant la Revue d'Histoire du Protestantisme. Nous aurons avec nous Pauline Dulé, Aour, Jean-Paul Willem et Hubert Bost. Et puis jeudi, nous poserons la question de savoir comment on a pu donner des lieux de culte, où ils ont été créés, ces lieux de culte, en France, aux protestants.
La coexistence confessionnelle, comment on partage les lieux de culte existants, tout à fait.
Merci beaucoup Catherine de Copé, on se retrouve demain. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vonne Abolivier et Aurélie Marcet. Nous avions avec nous à la technique aujourd'hui Élise Leu et à la réalisation Françoise Camard.